Chapitre 12. 25 septembre 1918. Mon père, mis en congé définitif, est auprès de nous depuis 3 semaines. Sa blessure, qu'il disait si légère, le fait encore souffrir, mais il n'y pense pas. Il parle de la guerre, des faits héroïques dont il a été le témoin émerveillé, du célèbre 18 juillet, et je vois sans cesse, à travers les grands êtres condamnés, l'impressionnante montée silencieuse de ces hommes qui allaient à la victoire. Nos grands chefs ont raison de répéter que jamais, jamais, nous n'aurons assez d'admiration pour nos hommes. Quelle race que la nôtre ! Mon père n'est pas de ceux qui, appuyant sur les défaillances, négligent le principal. Il juge l'ensemble et dédaigne les petits côtés. Aussi, malgré son antipathie pour les critiques inconsidérées de l'arrière, malgré son horreur pour les exploiteurs, il juge que, contrairement à la parabole, livrée jusqu'ici est étouffée par le bon grain. La tenue de la France est belle, pourquoi appuyer sur le moins bien? Dans toutes les situations, il y a toujours un moins bien. Lors de son arrivée, je m'inquiétais. Son blâme a, sur mon cœur, un effet si douloureux. 8 jours ont passé sans un mot. Je commençais à respirer, à penser qu'il ne parlerait jamais à sa fille de l'action si vivement critiquée, mais lundi dernier, il m'a dit « Viens avec moi à la pointe du Corée ». Le canon ne faisait plus rage comme le jour de ma rencontre avec les officiers, néanmoins on l'entendait sans arrêt, mais plus sourdement. Au tournant du coteau, mon père me dit sans préparation « C'est près d'ici que tu as trouvé cet Allemand ?»« Oui, à 200 mètres environ. » L'as-tu revu dans la nuit? Ton soupçon s'est-il confirmé? Je m'attendais si peu à cette question que, dans ma surprise, je demeurais silencieuse. Eh bien, Marguerite! Laissons ces choses, dis-je doucement. Elles sont passées et toujours pénibles. Mais mon père n'est pas homme à se contenter d'une réponse évasive. Je désire savoir, Marguerite. Par conséquent, allons droit au but. Je suis retournée près de lui, le malheureux mourait seul. Il a, par quelques mots, changé mes soupçons en certitude. A-t-il demandé un service? Il m'a demandé de prévenir sa femme. L'as-tu fait? Oui, j'avais promis. Rester près du meurtrier de ton frère? Refuser de le laisser partir? Ta mère, heureusement, ne croit qu'à un soupçon, mais un soupçon lui suffit bien, et à moi aussi, pour juger que jamais ce lâche n'aurait dû rester une minute à fleur. Je me recueillis un instant avant de répondre avec un calme qui m'étonnait moi-même. « Mon cher père, que faites-vous tous les jours pendant la guerre? Vous montez à la hauteur des circonstances, vous vivez dans l'abnégation pratiquée héroïquement. » La guerre est pour vous l'éclosion de sentiments et d'actes que, sans elle, vous auriez toujours ignorés. Est-ce la même chose? Nous défendons la patrie. Mais cet homme que je voulais punir meurt chez moi, protégé par ma fille. Et la colère suffoquait mon pauvre père. Il était protégé par plus puissant que votre fille, repris-je. Et c'est vous qui l'avez voulu. Moi? Qu'est-ce que tu dis? Je lui racontai quelques-unes de mes idées dans cette nuit pénible, et j'ajoutai « La guerre a conduit cet homme à fleurs, et l'évangile que vous avez donné pour base à ma vie morale a déterminé ma conduite. » Mon père est essentiellement droit. Après un silence qu'il employa à se calmer, il m'attira à lui et m'embrassa. « Marguerite, ta logique m'a toujours étonnée, tu la mènes jusqu'à l'extrême. » Quel bon moment! Il cicatrisait mes blessures précédentes. Mon père prit silencieusement mon bras et se dirigea vers Fleur. Mais presque aussitôt, il s'arrêta pour me dire « Cette logique, je la connais depuis longtemps et je devine ce que je ne vois pas. Tes efforts ont toujours tendu, je le sais, à vivre l'Évangile. Mais chez toi, quelque chose a changé. » On a déjà fait cette remarque. Tu prends tes décisions sans aucune timidité. Est-ce là le changement? Je n'en sais rien, dit-il d'un air rêveur qui me touchait et m'amusait en même temps. Ce n'est pas la guerre, c'est la douleur qui amène les changements. Elle balaie en partie les petites passions qui nous meuvent si facilement et le soi qu'elle constitue et qui rend timide n'existe plus que très diminué. On agit sans penser aucunement à l'effet produit par nous et nos actes. En partant, mon cher père, vous m'avez donné des responsabilités.
Oui, oui, mais ce n'est pas cela. Et fous que nous sommes, nous, parents, nous ignorons nos enfants, nous oublions que la graine semée par nous devient un arbre si elle rencontre un terrain favorable.
Que voulez-vous, dis-je gaiement, nos terrains de bataille sont différents. Vous savez, vous, hommes, lutter, mourir héroïquement, c'est votre sommet. Nous, femmes, nous tendons au sommet de la bonté.
Mon père pressa affectueusement mon bras, mais ne répondit rien.
Nous sommes des effacés en apparence, continuai-je, mais nous vivons intensivement et autrement que vous, voilà tout.
En apparence.
Ah, tu fais bien d'ajouter cela, dit mon père en riant.
Je ne connais pas de journée dont je garderai plus doux souvenir.
18 octobre 1918. Déjà mon père, avec les minces éléments dont il dispose, a mis tout en mouvement autour de lui. Je l'aide en m'efforçant de ranimer chez moi le feu sacré. Étrange détachement des choses produit en soi par les cordes brisées. Pourtant, il faut s'intéresser à l'aménagement nouveau de cette mauvaise hôtellerie qui, après tant de ravages, s'appelle la vie.
Préparons, me dit mon père, préparons, nous approchons de la fin.
Et il est partout à la fois pour activer les travaux. De vieux maçons que nous avons découverts dans le pays commencent à rebâtir lentement le village à 100 mètres de l'ancien qui restera comme le signe tangible de la terrible époque jusqu'au moment où, recouvert de clématites sauvages et de ronces fleuries, il sera pour le rêveur la poussière poétique du passé. Les qualités énergiques de ma pauvre mère ressuscitent sous la saine influence de cette activité qui ravit le vieux Muret. Pour être supérieur à l'heure qui passe, vis dans l'estime de toi-même. Et mes parents ne conçoivent pas l'estime de soi-même sans le travail. Ils pensent, et ils penseront toujours, que pour éviter le découragement, il faut travailler comme si rien ne doit jamais finir. Moi, je me répète que, désormais, l'esprit ne doit pas être plus sympathique au passé qu'à l'intérêt de l'heure présente. L'esprit contemplatif doit s'écarter pour laisser le passage libre à un esprit bien différent. C'est la théorie. Mais en errant dans les bois, dont les feuilles dorées tombent délicatement dans l'air paisible, je me livre sans scrupule aux orgies de la méditation.
21 octobre 1918. Avant la guerre, on écrivait « L'état du monde est tel et dépend tellement de l'action que toute chose semble crier à tout homme « Fais quelque chose, fais quelque chose !» Que dirait donc maintenant l'auteur de cette affirmation ? Jamais je n'ai mieux compris la loi, la nécessité de l'activité, et jamais je n'ai tant aimé, désiré les nonchalances méditatives des longs loisirs. Vivre dans le calme et entendre la voix de son âme, singulière douceur qui, toutefois, ne viendra qu'après les exigences de l'action.
26 octobre 1918. Pendant ces dernières semaines, chaque jour marque pour les Allemands la date d'une défaite. Il paraît difficile que la situation se prolonge au-delà de quelques mois.
Oui, disent les pessimistes, mais l'après de la guerre, que se passera-t-il?
C'est l'inconnu dans l'ère des difficultés. Monsieur de Cerdeau, qui voit en noir, nous trace un triste tableau. Il n'est pas resté au ministère et le ménage s'installe dans sa propriété. De ce côté, nous verrons encore des joies, mais dans la modification des caractères, Olga plus douce, lui plus irritable, j'aperçois l'ombre que la guerre a étendue sur ce jeune bonheur, sans d'ailleurs le détruire.
Que sera l'après ?
On a toujours assez de force pour supporter les maux d'autrui, a dit un humoriste. Aussi, je crois, me plaçant sur le terrain des rationnels égoïsmes, que l'oubli voilera promptement les horreurs de la guerre et que la jeunesse, sans attendre, voudra être jeune. Pendant qu'elle dansera, notre cœur à nous, les frappés, vivra dans les souvenirs et après son vol vers les tombes abritées sous les peupliers remuants, il rentrera dans ses solitudes en écoutant le doux appel « Venez à moi, vous tous qui souffrez !»